Le journal, Mariam El Kurdi. Bonjour Mariam.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, le cauchemar aux États-Unis. Deux bains de sang en moins de 24 heures ce week-end, deux fusillades. Le pays est en deuil aujourd'hui. Les autres titres, Mariam.
Des métros bloqués en pleine heure de pointe, des vols annulés. Les manifestants pro-démocratie passent à la vitesse supérieure à Hong Kong. Nous irons sur place. Direction Générac, dans le Gard, où les éleveurs de taureaux constatent les tristes dégâts suite aux incendies de forêt. Les propriétaires de 4x4 SUV seront-ils plus durement sanctionnés parce qu'ils polluent plus ? L'idée fait son chemin, vous l'entendrez. Enfin, l'école, ça nous paraît bien loin en France, pas en Allemagne. Dur d'être un enfant berlinois cet été, nous dira David Philippot.
Les invités du 6-9 à 8h moins le quart, le philosophe et humoriste Yves Cusset, qui publie chez Flammarion « Réussir sa vie du premier coup », un livre pour dénoncer les coachs spécialisés dans l'aide au développement personnel. 8h20, invité du grand entretien de France Inter, Clémentine Autain, députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis.
France Inter.
La nuit s'annonce difficile aux États-Unis. Il est minuit au Texas, dans le sud du pays. Et depuis 48 heures, les habitants d'El Paso, à la frontière mexicaine, vivent un cauchemar debout. Samedi matin, un jeune homme d'une vingtaine d'années ouvre le feu dans un centre commercial bondé. Un jeune homme blanc qui avait publié sur Internet un manifeste où il dénonce l'invasion hispanique au Texas. La tuerie fait 20 morts, dont 6 Mexicains, une vingtaine de blessés dans une ville à majorité hispanique. Le tireur d'El Paso s'est rendu à la police après la fusillade. Lors de sa garde à vue, il a avoué qu'il avait fait 9 heures de route pour tuer un maximum de Mexicains. De lourdes charges pèsent déjà contre lui, comme l'a affirmé John Bash, le procureur fédéral du Texas, lors d'une conférence de presse.
Nous menons une enquête méthodique, une enquête minutieuse, mais nous envisageons déjà des poursuites pour crimes haineux et utilisation d'armes à feu, des chefs d'accusation qui sont passibles de la peine de mort. Les faits semblent répondre à la définition que nous avons d'un cas de terrorisme intérieur. Ça veut dire que les faits ont été commis par un Américain sur le sol américain afin de terroriser la population. Et puisqu'il s'agit d'affaires de terrorisme, vous pouvez être sûr que nous donnerons une réponse judiciaire rapide et certaine.
Et 13 heures après la tuerie d'El Paso, une autre fusillade mortelle éclate cette fois dans le nord-est des États-Unis à Dayton. Cette fois, ça se passe le samedi soir dans le centre-ville, très animé. Là encore, un homme seul ouvre le feu et tue 9 personnes avant d'être abattu. Parmi les victimes, la sœur du tueur. Alors que sait-on pour l'instant de cette tuerie ? Correspondance aux États-Unis, Loïc Lory.
Moins d'une minute pour abattre 9 personnes et en blesser une vingtaine d'autres. Le tireur, un homme blanc de 24 ans, était venu pour tuer. La fusillade a éclaté après 1h du matin, dans le quartier d'Oregon, réputé pour ses bars et restaurants. Il y avait foule un samedi soir. L'assaillant, lui, n'avait rien laissé au hasard. Il portait un masque et un gilet pare-balles, une arme automatique, surtout équipée d'un chargeur de 100 cartouches. C'était sans compter maigre consolation sur la vitesse de réaction d'une patrouille de police. Le tireur est abattu alors qu'il entre dans un bar. Parmi les victimes figure sa sœur, une jeune femme d'une vingtaine d'années. Un indice peut-être sur ses motivations, mais la police ne se prononce pas. Aucune suspicion de crime de haine pour l'instant, contrairement à la tuerie d'El Paso. Les deux fusillades, toutefois, ont en commun d'avoir été perpétrées par deux hommes blancs. Et certaines voix s'élèvent pour dénoncer ce terrorisme intérieur comme la principale menace qui pèse actuellement sur les États-Unis. New York, Loïc Lory, France Inter.
Il n'y a pas de place pour la haine, a réagi Donald Trump. Le président des États-Unis a ordonné la mise en berne des drapeaux américains jusqu'à jeudi pour rendre hommage aux 29 victimes des deux fusillades. Il n'empêche, en pleine campagne électorale, le débat est relancé sur les armes à feu et sur l'immigration dans le pays.
Il est 7h04, Mariam, les habitants de Hong Kong durcissent le ton.
Grosse mobilisation aujourd'hui dans la mégapole du sud de la Chine. Les manifestants accentuent la pression, à tel point que la chef de l'exécutif est sortie de sa réserve. Carrie Lam accuse les protestataires de détruire la vie des Hongkongais. Cela fait 2 mois que les manifestants pro-démocratie défilent en masse dans la rue, mais la journée d'aujourd'hui semble marquer un tournant dans la contestation, avec des blocages dans les transports et un trafic aérien très perturbé. Reportage Zifan Liu.
Dès ce matin, les conséquences de la grève générale se font déjà ressentir ici à Hong Kong. À l'aéroport, plus de 200 vols ont été annulés alors que le trafic du métro hongkongais est également fortement perturbé dans une journée exceptionnelle dans l'ancienne colonie britannique.
Soudainement, on voit des salariés comme ceux des aéroports ou du métro. Et même les fonctionnaires qui étaient considérés comme plutôt conservateurs, même eux soutiennent le mouvement et l'idée de la grève générale. Je vois qu'il y a des changements rapides dans la culture hongkongaise. Il peut y avoir de grands bouleversements à Hong Kong.
Dans une ville où la culture du travail est primordiale, faire grève n'est pas ancré dans la culture, mais cet acte singulier peut être décisif pour ce manifestant.
À ma connaissance, c'est la première fois en 40 ou 50 ans. La majorité des Hongkongais veulent désormais faire le bon choix. Si tout le monde soutient ce mouvement, je pense que le gouvernement se rendra compte que la situation est sérieuse.
Cet après-midi, pas moins de 7 manifestations sont organisées dans tout le territoire pour continuer de mettre la pression sur le gouvernement local.
Reportage Zifan Liu, le nouveau bateau humanitaire de SOS Méditerranée et de Médecins sans frontières est en mer depuis hier soir. C'est pour sa première mission de sauvetage de migrants au large de la Libye. Reportage à suivre dans le journal de 7h30. Depuis le début de l'année, près de 600 migrants sont morts noyés en Méditerranée. Comment rebondir quand vos terres sont parties en fumée? À Générac, dans le Gard, ce sont 800 hectares qui ont été détruits par les flammes la semaine dernière dans 2 incendies, mardi et mercredi d'abord, puis vendredi. Une catastrophe pour les habitants, notamment les éleveurs de taureaux, les manadiers. Le mât de Cuillé possède plus de 250 hectares de pâturage à Générac pour ses taureaux de Camargue et ses chevaux. Une grande partie a été ravagée par les flammes, comme l'a constaté Marius Delaunay.
Le sol est noir, carbonisé et l'herbe qu'il reste est jaune, flétrie par la chaleur. Pierre Cuillé avance dans ses pâturages et il constate les dégâts.
Là, c'est une désolation totale.
140 hectares de son mas ont brûlé, la quasi-totalité des pâturages d'hiver pour ces bêtes.
C'est très simple, il y a des cendres et des troncs d'arbres debout et brûlés. Il n'y a plus de signes de vie végétale. Ah, je ne suis jamais allé sur la Lune, mais sur les images qu'on nous en montre, on a l'impression d'y être.
L'odeur du brûlé est encore partout, pins, chênes, arbustes, presque tous les bois sont partis en fumée.
Il y a des arbres qui étaient plus que centenaires qui ont disparu. Pour nous, ça servait d'abri pour que les vaches puissent mettre bas l'hiver. Il faut que les mises bas se passent bien, que les vaches soient en confiance, qu'elles soient cachées à l'abri des regards, protégées de la pluie et du froid. Bon, là, tout ce qui est protection naturelle contre les intempéries et protection visuelle a totalement disparu. Et c'est une perte majeure.
Pierre Cuillé et tous les manadiers n'attendent maintenant qu'une chose, que la pluie revienne pour que les pâturages retrouvent le plus vite possible un peu de vert.
Reportage Marius Delaunay. Faire payer plus les plus gros pollueurs. L'idée a déjà fait son chemin, mais les bonus-malus pourraient encore évoluer. L'écotaxe mise en place en 2008 à la suite du Grenelle de l'environnement doit être réévaluée à l'automne dans le cadre de la loi finances. Et beaucoup de voix s'élèvent pour sanctionner davantage les propriétaires de SUV, des 4x4 particulièrement énergivores en raison de leur poids, d'autant que ces SUV séduisent de plus en plus en ville, Jean-Michel Naga.
Ils représentaient à peine 10% des ventes de véhicules neufs en France en 2010. Aujourd'hui, on approche des 40%. Les SUV séduisent de plus en plus d'automobilistes. Plus gros, plus confortables, ces 4x4 urbains polluent souvent bien plus que les autres véhicules, notamment en raison de leur poids, parfois près de 2 tonnes. Et qui dit véhicule lourd, dit forcément consommation d'énergie et émissions de CO2 beaucoup plus importantes. Les acheteurs payent déjà un malus écologique pour cela, jusqu'à 10 000 euros à l'achat. Mais le poids pourrait bientôt entrer en ligne de compte, comme c'est le cas en Finlande. Le député écologiste Mathieu Orphelin souhaite creuser cette piste dans le cadre de la prochaine loi de finances.
Nous allons proposer de discuter avec le gouvernement sur ces questions-là. Comment on peut effectivement donner un bonus supplémentaire aux véhicules les plus légers et peut-être effectivement voir dans quelle mesure on peut mettre un malus sur les véhicules les plus lourds. C'est dans l'intérêt de tous, mais aussi dans l'intérêt des constructeurs automobiles.
Et ceci pour les inciter à construire des voitures plus légères, plus économes en énergie. C'est dans leur intérêt de s'y préparer. D'ici 2 ans, les voitures neuves devront émettre moins de 95 grammes de CO2 par kilomètre, contre 117 aujourd'hui en France. En cas de non-respect de ces normes, les constructeurs s'exposeront à des amendes de la part de l'Union européenne.
Reportage Jean-Michel Naga. En bref, le patron de la Banque internationale britannique HSBC démissionne. John Flint était à la tête du géant bancaire depuis moins de 2 ans. Un départ inattendu, d'autant que HSBC réalise d'excellents résultats. Les syndicats de Tati, reçus ce matin au ministère du Travail, 13 magasins de l'enseigne Rose vont fermer en France. Près de 200 emplois sont menacés. Les déserts médicaux, une souffrance que connaissent pas moins de 8 millions de Français. À tel point que certains médecins reculent le départ à la retraite pour ne pas abandonner leurs patients. D'autres, trop fatigués, finissent par ranger le stéthoscope. stéthoscope et puis tant pis. À Hayange, en Moselle, une solution a peut-être été trouvée pour éviter cette situation. À l'hôpital, un service de médecine générale vient d'ouvrir et trois médecins libéraux, retraités ou futurs retraités, vont quitter leur cabinet pour y travailler. Ils y assurent à tour de rôle des consultations quotidiennes. Thomas Jean-Georges.
Ce nouveau service de médecine générale a été installé dans les anciens locaux des urgences de l'hôpital d'Hayange. Une salle d'attente, une autre de consultation avec tout le matériel nécessaire et un peu plus loin, un secrétariat où le téléphone sonne très régulièrement.
Est-ce que mardi 6 août, ça irait pour vous? Alors j'ai 14h50 ou 15h10?
Depuis une semaine, une quinzaine de personnes, la plupart âgées, pénètrent quotidiennement dans le bureau du docteur Renaud Bernard. À 64 ans, cet ancien médecin libéral s'est laissé tenter par cette aventure hospitalière pour notamment ne pas abandonner les patients du secteur.
On dit que dans les 5 ans à venir, il pourrait y avoir 5000 personnes ou plus sur la vallée qui n'auraient plus de médecin traitant. Et ça, c'est vraiment un grave problème.
Le docteur Bernard reconnaît aussi qu'il y a une petite motivation financière. Ce travail, c'est un complément à sa pension de retraite. Et puis, c'est aussi poursuivre un métier que l'on aime, mais sans les contraintes administratives du libéral, comme l'explique son confrère, le docteur Didier Sally, 62 ans, et tout prochainement à la retraite.
On est libéré des contraintes administratives, de facturation, de comptabilité, etc. On devient un salarié.
Autre avantage pour ces toubibs aux cheveux blancs, dans ce service, il n'y a pas de visite à domicile et aucune garde de nuit et de week-end.
Reportage Thomas Jean-Georges.
Maria Melcurdi, auriez-vous envie d'aller à l'école au mois d'août alors qu'à l'extérieur la température est de 25 degrés?
Eh bien non, Pierre, personne. Mais en Allemagne, les Berlinois n'ont pas le choix quand on pense qu'en France, les enfants entament leur deuxième mois de vacances. L'heure de la rentrée des classes a déjà sonné à Berlin. Et cette année, elle est particulièrement difficile, David Philippot.
La première raison de ces vacances tournantes est pratique. Imaginez la saturation des autoroutes et des locations que provoquerait en Europe le déboulé en même temps des quelques 11 millions d'élèves allemands avec leurs familles. La seconde raison est pédagogique. L'élève doit se reposer, mais pas non plus tout oublier. Il n'existe d'ailleurs pas de cahier de vacances de ce côté-ci du Rhin. Mais un système qui pose problème avec la hausse généralisée des températures. Et Sarah, qui entre en CM2 dans une école franco-allemande, rêve déjà d'école buissonnière.
Moi, j'ai pas trop hâte d'aller à l'école parce que c'est encore chaud. On peut encore faire beaucoup de trucs, aller au lac, aller à la piscine, parce que la classe est très chaude.
Voire trop chaud comme au mois de juin, quand le thermomètre a dépassé les 50 dans les salles de classe. Le règlement dit alors que les enseignants peuvent raccourcir l'heure de cours à une demi-heure et laisser les enfants jouer dans la cour. En Thuringe, l'été dernier, les profs avaient dû faire classe sous le préau et dans les parcs. Berlin, David Philippot pour France Inter.
Allez, courage aux 360 000 petits Berlinois qui retrouvent ce matin le chemin de l'école en France. Profitez bien!